Avoir raison avec Bell Hooks. Aïda Ndiaye.
Bienvenue dans notre deuxième épisode, une icône du féminisme noir.
Pendant très longtemps, l'argument pour ne pas produire de films comme Ouvrir la voie ou ne pas diffuser de séries qui représentaient des personnes noires, c'est que ce n'était pas universel. C'est que tout le monde n'allait pas pouvoir s'y retrouver. Et je pense que la puissance de la pensée de Bell Hooks, c'est de partir du postulat que puisque nous sommes des femmes noires, nous sommes des êtres humains, et que les êtres humains qui n'ont pas de biais ou de préjugés trop fortement ancrés vont être en mesure de se représenter leur expérience à travers la nôtre. Et donc c'est ça qui est pour moi très fort, c'est en fait de refuser un universalisme excluant.
Je ne peux pas le dire mieux que la réalisatrice Amandine Gay que nous venons d'entendre, ni mieux non plus d'ailleurs que ne le dit le titre de l'ouvrage de Bell Hooks, « Tout le monde peut être féministe ». De sa position de femme noire, fondatrice dans sa pensée, Bell Hooks construit un propos universel qui s'adresse aux femmes noires bien sûr, mais aussi à toutes les femmes et à tous les hommes. Loin des stéréotypes d'un féminisme noir qui divise, elle cherche avant tout à inclure. Et pourtant, ce féminisme, Bell Hooks le définit également comme radical. Mais alors comment ? Comment être à la fois radical, révolutionnaire et universel ? Et comment mettre en pratique cette pensée dans nos vies et dans nos œuvres, sans la trahir ? C'est notre programme aujourd'hui, avec mes deux invités que j'ai la chance d'avoir à mes côtés en studio. Bonjour Pamela Ohene-Nyako.
Bonjour.
Vous êtes historienne des féminismes noirs en Europe et créatrice de la plateforme littéraire Afrolit consacrée à la littérature afrodescendante. Et bonjour Marie-Julie Chalut.
Bonjour.
Vous êtes comédienne, créatrice d'événements et de projets culturels et vous avez notamment produit le spectacle « À nos humanités révoltées » à partir du recueil éponyme de la poétesse afroféministe Kiemis. Alors le premier texte de théorie féministe de Bell Hooks, c'est son premier texte tout court d'ailleurs, c'est « Ne suis-je pas une femme ?». Elle l'a écrit à 19 ans, elle met des années à réussir à le publier et finalement il paraît en 1981. Dans ses mémoires, elle raconte les années d'écriture de ce livre. En fait, c'est son compagnon de l'époque, le poète Nathaniel Mackie, qui l'encourage à écrire le livre de féminisme pour les femmes noires qui lui manquent et qu'elle aimerait lire. Marie-Julie Chalut, je voulais vous demander... Qu'est-ce que ça fait de lire ce texte quand on est une femme noire et pourquoi est-ce qu'on a besoin de lire ces textes quand on est une femme noire ?
Moi, je découvre Bell Hooks en 2015-2016, en même temps que je découvre l'afroféminisme, que je découvre notamment aussi Amandine Gay, qu'on a entendu là dans l'extrait. Donc, le premier livre que je lis de Bell Hooks, oui, c'est « Ne suis-je pas une femme », qui est aussi le premier livre de Black Feminism que je vais lire et qui va après ensuite m'ouvrir à tout un champ littéraire et théorique, pensé, écrit par des femmes nord-étatsuniennes. Je vais découvrir après Audre Lorde, June Jordan, Patricia Hill Collins. Et Bell Hooks, qu'elle va me permettre, c'est de mettre des mots sur le fait que je sois femme et noire et que je viens d'une famille de classe populaire. Et parce que jusque-là, j'avais conscientisé la question raciale, mais pas forcément celle du genre et de la classe. Et comment ces trois systèmes d'oppression peuvent s'interconnecter. Et ça, c'est un mot qu'elle dit. Elle parle d'interconnectivité des systèmes d'oppression. C'est un peu, c'est la même chose que l'intersectionnalité. Et être à l'intersection de la race, du genre et de la classe permet aux femmes noires, comme elle dit, d'avoir une perspective unique et précieuse sur la société dans laquelle elles vivent, pour la critiquer et pour proposer d'autres modèles de société et d'autres imaginaires. Et moi, c'est ce qui va m'intéresser en tant qu'artiste. Et en fait, à partir de la position marginale des femmes noires, Bell Hooks va développer toute une théorie féministe qui va travailler à la libération de toutes et tous.
Pamela Ohene-Nyako, je vous pose la même question. Qu'est-ce que ça fait de lire ces livres quand on est une femme noire ?
Alors moi, j'ai été introduite à Bell Hooks, en fait, via ses écrits sur l'amour et les masculinités noires. Donc, disons que là, justement, tous les apports du Black Feminism sur la triple oppression race, sexe et classe, c'est des concepts auxquels j'étais déjà familière quand je commence à lire Bell Hooks. Bell Hooks, elle m'a surtout marquée par sa capacité à analyser la question des masculinités noires et ce que ça fait dans les relations intersexuelles avec les femmes noires. Donc voilà, pour moi, c'était à ce moment-là qu'elle était importante dans mon parcours.
On parlera de ces questions demain dans notre épisode sur l'amour. Je vous propose pour commencer notre discussion qu'on écoute un extrait de son autre ouvrage de théorie féministe, De la marge au centre, de 1984.
Le féminisme est la lutte pour mettre fin à l'oppression sexiste. Son but n'est pas de servir uniquement un groupe spécifique de femmes, ni des femmes d'une race ou d'une classe particulière. Il ne privilégie pas les femmes par rapport aux hommes. Il a le pouvoir de transformer de manière significative nos vies multiples et différentes. Et avant toute chose, le féminisme n'est ni un style de vie, ni une identité toute prête ou un rôle qu'on peut endosser.
C'est donc un extrait de La marge au centre, théorie féministe, un texte de 1984, lu dans la traduction de Nomi B. Gruzig, paru chez Cambourakis, et lu par Marissona Condé. Pamela, Ohene Nyako, je me tourne de nouveau vers vous. On l'a dit, et finalement on le voit dans cet extrait, il y a ce paradoxe en quelque sorte que le féminisme de Bell Hooks part de cette position de femme noire, ce qu'elle explore vraiment dans Ne suis-je pas une femme, et dès De la marge au centre, et ensuite Tout le monde est peut-être féministe que j'ai évoqué tout à l'heure, elle produit véritablement un féminisme pour toutes et tous. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Comment est-ce qu'elle construit ce féminisme? Qu'est-ce que ça veut dire, notamment la définition qu'elle utilise dans le texte que nous avons entendu? C'est la lutte pour mettre fin à l'oppression sexiste. Je précise que dans d'autres textes, elle dit que ça n'est pas, la finalité n'est pas l'égalité des sexes, ce n'est pas l'égalité avec les genres. Alors ça peut, avec les hommes, pardon. Ça peut surprendre. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par ces définitions?
Alors déjà, il faut resituer Bell Hooks dans la généalogie dans laquelle elle s'inscrit, à savoir, et vous l'avez dit avant, une femme noire qui est frustrée, qui participe au mouvement de conscience, de conscientisation des femmes. Elle fait des études dans les dits women's studies, et donc c'est une femme noire minorisée dans des groupes majoritairement de femmes blanches, qui ont une classe, enfin qui sont de classe sociale plutôt bourgeoise, en tout cas qui ont un capital social parce qu'elles sont universitaires. Et donc c'est à partir de ce manque de considération pour les femmes noires dans le mouvement féministe qu'elle développe en fait une pensée, et ça émerge énormément, ça ressort énormément de son livre De la marge au centre. Et donc à partir de ce positionnement où elle dit mais en fait le féminisme, pourquoi le féminisme serait restreint à ces femmes blanches bourgeoises comme elle les qualifie, et pourquoi les femmes noires n'auraient rien à dire sur le féminisme. Et donc à partir de ce constat, et Amandine Gay le disait aussi en introduction, c'est qu'elle élargit en fait, elle prend la catégorie féminisme qu'elle en quelque sorte élargit par rapport au fait qu'elle a pu observer. Donc elle rappelle que les femmes noires ont participé à la libération des femmes. Sauf que quand le terme féminisme émerge, c'est certaines femmes privilégiées, blanches, qui deviennent les figures de proue, en fait, et qui, en quelque sorte, s'accaparent ce féminisme-là. Donc elle, déjà, elle dit, mais en fait, le féminisme appartient à tout le monde, et les femmes noires ont été là, et doivent elles-mêmes se le réapproprier. Parce qu'elle est aussi critiquée vis-à-vis des femmes noires qui, soi-disant, ne seraient pas concernées par le féminisme, qui seraient uniquement associées aux femmes blanches. Donc il y a cet aspect-là, mais pour Bell Hooks, c'est extrêmement important que féminisme puisse résonner avec toutes les femmes. Et au sein de ce féminisme, elle y apporte justement une critique de l'hégémonie blanche. Alors, une critique liée à la race, de dire que tout féministe, pour qu'il soit inclusif, doit inclure les questions de race et les inégalités de race, donc être inclusif des femmes noires en l'occurrence, des femmes latinas, etc., et de la classe. C'est-à-dire que ça ne peut pas seulement être des revendications de femmes bourgeoises aisées. Voilà. Et ce qui explique, et ça, je terminerai par ça, par rapport à l'égalité, ce qu'elle dit, ça ne peut pas être une simple égalité homme-femme, c'est ce que un des reproches qu'elle fait aux féministes qu'elle va ensuite appeler réformistes, donc ces mêmes féministes bourgeois, c'est qu'en fait, une de leurs revendications principales, c'était l'égalité avec les hommes. Et quand elle pensait hommes, c'était majoritairement hommes blancs aisés dans la société états-unienne. Et ce qu'elle reproche à ce mouvement-là, c'est de dire, mais finalement, ce que les femmes blanches bourgeoises revendiquaient, c'était l'égalité avec des hommes blancs de leur propre classe sociale. En faisant cela, elles oublient que déjà, énormément de femmes travaillaient, des femmes qui n'étaient pas blanches et bourgeoises, et que le travail n'est pas nécessairement une libération, ça peut aussi être une exploitation, et qu'il faudrait au contraire un féminisme révolutionnaire qui revoit en fait les fondements de la société et qui est à la fois dans une critique de la classe et de la race.
Oui, c'est comme ça, finalement, que ce féminisme, justement, s'articule, vous venez de le dire, à la question de la classe. Est-ce qu'on peut dire que par rapport à d'autres penseuses féministes noires, elle a un point d'entrée un petit peu différent, c'est-à-dire qu'elle rentre, justement, dans les questions de classe, dans les questions raciales dont on parlera jeudi, par le féminisme, alors qu'il y a d'autres penseuses, par exemple Angela Davis, qui, elle, rentre dans le féminisme par la critique marxiste, la critique anticapitaliste?
Absolument, et je pense que c'est ce qui démarque Bell Hooks de ses contemporaines, c'est que c'est une femme noire qui vient du mouvement des femmes en y amenant justement ses critiques classe, race, et en s'accaparant en fait le féminisme, tandis que les autres femmes noires étaient, on va dire, majoritairement issus des mouvements de libération noire, et à partir de ces mouvements-là, y amenait une dimension genrée, ce qui, d'une certaine manière, et là, ce serait à débattre, et ce qui peut aussi expliquer la radicalité de Bell Hooks par rapport à certaines de ses contemporaines, elles étaient un peu plus alertes à aborder la question du patriarcat des hommes noirs. Parce que ça pouvait être récupéré contre les communautés noires pour justifier la violence à l'égard des hommes noirs, etc. Donc ces femmes-là, on pourrait dire qu'elles étaient un peu plus conditionnées par le racisme états-unien pour aller jusqu'au bout d'une critique du patriarcat noir. Ce qui fait que Bell Hooks, quand elle écrit son premier texte, bah, elle ne se fait pas que des amis parce qu'en fait, elle y va franco et elle ne se gêne pas en fait, de critiquer à la fois certaines femmes noires et les hommes noirs publiquement dans une société qui pourrait le récupérer contre les noirs.
Marie-Julie Chalut, vous l'avez évoqué dans votre première réponse. Comment est-ce qu'on peut opérer ce déplacement, justement, pour reprendre le titre du livre de Bell Hooks, de la marge au centre? Puisque, je l'ai dit rapidement, on reproche souvent aux féministes noires d'être peut-être pas séparatiste, mais en tout cas d'introduire de la division dans le mouvement féministe. Ce sont des critiques d'ailleurs auxquelles Bell Hooks répond elle-même. Or, précisément, toute l'idée, c'est d'opérer ce déplacement de la position marginale, justement, en faire une position centrale. Comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce qu'on peut produire de l'inclusion à partir d'une position qui est socialement, en tout cas, minoritaire?
Je vais reprendre les mots du Combahee Weaver Collective, qui était un collectif noir lesbien des années 80, basé à Chicago, je crois, et qui disait que si nous sommes libres, toutes les autres personnes le seront, parce que notre libération dépend de la destruction de plusieurs systèmes d'oppression liés à la race, au genre, à la classe et à l'orientation sexuelle, dans leur cas. Mmh. Et donc, de partir de cette marginalité-là, servira au centre, servira aux autres, en fait. Et ce que Bell Hooks m'a permis, c'est de légitimer, en fait, mon point de vue de femme noire, et pour notamment essayer de contrer l'assimilation à la norme blanche. Et ça m'a permis aussi de décoloniser l'universel, comme pour revenir sur ce que disait Amandine Gay au début de l'émission. En fait, l'universel peut partir aussi d'intimité de femme noire. Et ça, on l'a expérimenté avec mon amie Marina Montmirel, avec qui on a créé un spectacle, À nos humanités révoltées, comme vous l'avez dit en début d'émission, qui est basé sur le recueil éponyme de Kiemis. Et à partir de notre cas particulier de femme noire, on parle de nos humanités, de l'humanité qu'on a en commun. Et c'est ce que Bell Hooks m'a permis. Et puis aussi, elle m'a aussi beaucoup aidée sur le concept de regard oppositionnel. Ça aussi, ça m'a beaucoup aidée parce que je suis une cinéphile, je suis passionnée de cinéma et de lire ça aussi. Ça m'a aidée aussi à notamment développer tout un ciné-club autour qui s'appelle Noir Cinéma Club, où je programme des films noirs indépendants.
Oui, on va y revenir. Effectivement, Bell Hooks a toute une œuvre de critique culturelle très mal connue en France. On va en parler tout à l'heure. Je voulais juste revenir avec vous, Pamela Ohene-Nyako, sur la question qu'on vient de soulever de ce déplacement, donc de la marge au centre ou du centre à la marge. La question que ça soulève aussi, il me semble, c'est la question de la sororité, puisque c'est justement aussi ce qu'on va opposer précisément aux féministes noires, en leur disant au nom de la sororité, il ne faut pas diviser le mouvement féministe. Il y a un livre de Bell Hooks qui est traduit par le titre Sororité en français, mais ce n'est pas le titre anglais. Et donc, elle est plutôt critique à l'égard de ce terme de sororité, à travers la notion de soutien aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire, Pamela Ohene-Nyako, en quoi est-ce qu'elle prend justement un peu de distance quand même avec cette notion de sororité, quand bien même, comme on l'a bien dit, elle construit un discours très inclusif?
Oui. De mes lectures, elle émet deux principales critiques. La première critique, c'est de dire, déjà, c'est pas parce qu'on est femme que nécessairement on serait féministe et donc en lien direct avec les femmes.
Oui, je vous interromps juste une seconde parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée dans mes lectures. Elle dit, la personne la plus sexiste que je connaisse, c'est ma mère.
En exactement, fait. Voilà. Et ça, c'est très, très important et propre à la pensée de Bell Hooks, c'est que c'est une théoricienne qui voit les oppressions de manière systématique. Et en fait, elle part du principe que ce n'est pas parce qu'on incarne une certaine identité sociale, qu'on a été socialisé à être femme, que ça irait de soi qu'on serait antisexiste. Et là, elle prend vraiment ce parti pris de dire, mais en fait, de partir du principe que parce que des femmes se retrouveraient parce qu'elles seraient femmes, au sens cisgenré du terme, que un peu par magie, comme ça, une sororité va opérer. Et ça, elle le tire de sa propre expérience. Elle dit, mais finalement, ma conscientisation, alors elle s'est produite dans différents espaces, l'espace du foyer, l'espace des groupes de conscientisation, mais il a fallu cette politisation. En fait, il faut du travail pour devenir féministe et pour déconstruire le sexisme qu'on pourrait toutes et tous internaliser. Pareil pour le racisme, etc. et tout. Donc déjà, ça c'est un premier constat qu'elle pose, de dire, mais pour en effectivement devenir sœur, je pense qu'elle le voit comme un horizon possible, mais pour effectivement devenir femme solidaire entre nous, il faut avoir la capacité d'être critique des différentes formes d'oppression, soit qu'on peut reproduire vis-à-vis d'autres, ou qu'on a soi-même internalisé. L'autre critique qu'elle émet, c'est qu'elle part du constat, des observations, que le féminisme, encore une fois, on est dans un féminisme états-unien des années 80, 70-80, donc il faut aussi la remettre dans son contexte à ce niveau-là. Ce qu'elle observe, c'est que la plupart des femmes ont créé du commun et de la sororité sur la base d'être victimes. Alors ça, c'est quelque chose qu'à travers tous ces textes, on voit qu'elle a de la peine avec cette idée de femme victime et que l'oppresseur principal serait les hommes. Alors ça, encore une fois, à partir de sa position de critique du système, elle ne le supporte pas, en fait. Elle dit non, il faut plus que ça, il faut plus de déconstruction et du coup plus de travail politique pour que vraiment il y ait sororité.
Oui, puis il y a l'idée aussi que une identité de victime, ça ôte aux agents, aux personnes justement leur agentivité, leur puissance, leur force, et que donc, comme vous le dites, faire collectif autour d'une identité de victime, c'est se priver aussi d'une représentation de soi comme un acteur social ou politique.
Absolument. Et juste un dernier point qui me semble important, et puis elle est de loin pas la seule femme à émettre cette critique à ce moment-là, alors femme noire, mais aussi les femmes racisées féministes de l'époque, c'est de dire mais en fait cette tranche-là du mouvement des femmes popularisées estime que le féminisme est uniquement lié à l'oppression homme-femme. Et donc, pour des féministes plus critiques, elles vont dire, mais en fait, le féminisme est plus largement que ça. Alors oui, c'est lié à la lutte contre le sexisme, mais les conditions de femmes ne se limiteraient pas uniquement, en fait, à l'oppression homme-femme. Et c'est aussi pour cela qu'il faut élargir, en fait, les grilles.
France Culture, avoir raison avec Bell Hooks. Aïda Ndiaye.
En 2014, hein, faut se remettre dans le contexte, l'existence audiovisuelle du fait des femmes noires était quand même très très limitée et de mon point de vue aussi très caricaturale. Et ce qui a motivé entre autres la réalisation d'Ouvrir la Voie, c'est que moi j'avais commencé par écrire des programmes courts de fiction ou des programmes de fiction. Et très souvent quand je mettais des rôles de femmes noires auxquels les producteurs blancs n'étaient pas habitués, on me répondait oui mais ces filles-là elles n'existent pas, elles n'existent que dans les pays anglo-saxons. Et donc comme moi je connaissais plein de filles noires qui pouvaient être queer, qui étaient des artistes, qui avaient un regard politique sur la société française, etc. Je me suis dit, commençons par un documentaire, commençons par aller voir les personnes qui existent et qui, parce qu'elles n'ont pas été représentées dans la fiction, sont finalement invisibilisées dans la réalité. Donc, Ouvrir la Voie, ça vient vraiment d'un besoin de simplement rétablir les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire de montrer que les femmes noires ne sont pas l'ensemble des stéréotypes qui sont perpétués sur elles dans l'espace public. Et donc, on le fait en se réappropriant la narration et en racontant soi-même ce que c'est qu'être une femme noire, mais sans nous essentialiser non plus. Donc, c'est pour ça qu'il y en a aussi 24 dans le film.
C'était donc de nouveau un extrait d'une interview que nous avons réalisée d'Amandine Gay. Elle nous parle de son documentaire « Ouvrir la voie » qui date de 2014. Elle évoque dans cette interview les stéréotypes qui sont attachés aux femmes noires. On l'a évoqué rapidement avec vous, Marie-Julie Chalut. Bellux a aussi dans son œuvre tout un ensemble de textes, d'articles, de critiques culturelles. Elle travaille sur les images, les représentations que la télévision, le cinéma, la publicité peuvent construire autour des corps des femmes et notamment des personnes racisées en général. Vous avez évoqué la notion de regard oppositionnel. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit et comment est-ce que vous, justement, dans votre travail, vous essayez de construire ce regard oppositionnel qui sort des représentations dominantes ?
Oui, je pense que ça fait écho, le regard positionnel, à mon expérience de spectatrice noire notamment. Comme je l'ai dit, je suis cinéphile et souvent quand j'allais voir des films ou quand j'étais devant la télé, il y avait toujours un stress parce que toujours un stress face à comment on va nous représenter. Ou soit on n'est pas représenté, ou soit on est absente. Et donc le regard oppositionnel de Bell Hooks a mis des mots en fait sur ces sensations là en fait. Et le spectacle, je reviens sur le À nos humanités révoltées, justement qu'on a produit de manière indépendante avec Marina Montmirel, où on assume en fait ce point de vue. Notre point de vue, il peut parler à nous, femmes noires, et à tout le monde. Et donc, je pense que ça, c'est ça que Bell Hooks m'a permis de... m'a donné de la force pour assumer ce point de vue-là, comme je le disais tout à l'heure, et ne pas me dire que, en fait, forcément, ce spectacle-là serait communautariste, ou voilà. En fait, il y a tout de suite cette critique, dès qu'on est une femme noire et qu'on veut parler de femme noire, si le spectacle aussi est écrit par une femme noire, tout de suite, on va dire qu'on est communautariste et pas valoriser notre travail. Alors que ce travail-là, comme je disais plus tôt, partir d'intimité de femme noire, on peut parler d'universel à partir d'intimité de femme noire.
Pamela Ohene-Nyako, dans l'interview d'Amandine Gay que nous avons entendue, elle évoque les stéréotypes attachés aux femmes noires. Parmi ces stéréotypes, il y a l'hypersexualisation. Je ne peux pas ne pas parler de Beyoncé, dont Bell Hooks a dit qu'elle était une terroriste pour jeunes filles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer... Bah oui, mais il faut quand même en parler. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'elle entend par là ? C'est-à-dire que ce qui m'a frappé aussi à la lecture, c'est qu'il y a à la fois dans toute son œuvre et tous ses textes, quelque chose de presque doux, j'ai envie de dire, très inclusif, comme nous l'avons expliqué, et en même temps, une forme de dureté, de sévérité, presque parfois, j'ai envie de dire, d'intransigeance dans les textes. Il y en a beaucoup qu'elle écrit sur les femmes, les chanteuses, les actrices. Elle parle de Tina Turner, Madonna, Beyoncé. Je ne suis pas sûre qu'elle ait écrit dessus, mais en tout cas, elle en a parlé dans des conférences. Et c'est vrai que quand elle dit que Beyoncé est une terroriste pour jeune fille, on se dit un petit peu, c'est-à-dire en fait, qu'est-ce que ça signifie ?
C'est-à-dire. Alors, une des manières de comprendre, alors c'est vrai que le propos est quand même dur, hein, terroriste, voilà, c'est quand même connoté, et en plus elle le dit dans un espace états-unien post-2001, donc bon. Mais on peut le comprendre quand on comprend la généalogie intellectuelle de Bell Hooks, à savoir quelqu'un qui, dès son premier texte, donc Ne suis-je pas une femme de 81, décortique en fait plusieurs images que Patricia Hill Collins appellera les images contrôlantes, à savoir le mythe de la matriarche noire et, alors je saute pour passer justement à l'image de la Jézabel, hein, à savoir une figure qu'on retrouve justement dans toute la culture populaire cinématographique états-unienne, d'une femme claire de peau, tentatrice, hypersexualisée, où finalement c'est une des catégories à partir de laquelle on va voir représenter des femmes noires dans l'espace public médiatique états-unien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la même visibilité politique qui est donnée à des femmes, par exemple, avocates, etc. Alors, sans partir dans des politiques de respectabilité, mais il y a quand même cette analyse de pourquoi, quand il s'agit de femmes noires, elles sont soit des femmes obèses aimantes, la Black Mama, ou alors des femmes claires de peau, tentatrices, dénudées, voilà, donc ça c'est les Jézabel et il y en a d'autres. Et donc, quand on avance au fur et à mesure de l'œuvre de Bell Hooks, elle garde cette ligne en fait, c'est-à-dire qu'elle est critique vis-à-vis d'images stigmatisantes vis-à-vis des femmes noires, parce qu'elle voit aussi les effets, c'est-à-dire qui dit une image hypersexualisée comme ça, qui s'inscrit quand même dans l'histoire de l'esclavage états-unien, dit aussi une manière politique de justifier en fait la violence sexuelle à l'égard des femmes noires. Donc c'est-à-dire que ce qui se passe dans la pop culture peut ensuite se refléter dans le quotidien de personnes. Et quand elle parle de petites filles, bah c'est des petites filles qui vont être confrontées à cette culture populaire avec pas d'autres ou très peu d'autres représentations de femmes noires dans lesquelles elles pourraient s'imaginer autre que en body sur scène, a quand même flatté un homme qui l'a trompé, a cassé sa voiture. Enfin, c'est vrai qu'il peut y avoir d'autres projets pour des petites filles, en tout cas, c'est ce que Bell Hooks voudrait. Et donc, elle prend Beyoncé comme l'icône dite féministe à l'époque, et elle dit, en fait, si c'est ça maintenant notre icône du féminisme noir, où va-t-on ? Donc, d'où le ton dur, mais ça s'inscrit dans une lignée intellectuelle et dans un ton, en effet, qui, elle a toujours été critique, même par ses, vis-à-vis de ses pairs de l'époque.
Et est-ce qu'on peut dire, et c'est ce que m'évoquait aussi ce que vous disiez tout à l'heure sur la sororité, qu'il y a aussi une exigence de vérité très forte. Et donc, parce que c'est une femme noire, ça n'empêche pas, en fait, de dire ce qu'il en est, parce qu'il y a cette exigence de vérité qui tient, en fait, sa parole, enfin, qui anime sa parole.
Absolument. C'est un risque quand on est une minorité d'être critique vis-à-vis de sa propre minorité parce qu'il y a un peu cette idée qu'il faudrait qu'on fasse bloc. Et en même temps, Bell Hooks, elle essaye de sortir à sa manière de l'idée que toutes les femmes seraient d'accord et suivraient une même ligne. Je pense qu'il faudrait en effet le voir comme Bell Hooks parmi d'autres femmes. Bell Hooks est une penseuse parmi d'autres et ne représente pas le black féminisme. Et le black féminisme, en fait, a plusieurs figures et plusieurs penseuses.
Marie-Julie Chalut, pour terminer, je voulais vous demander comment est-ce que vous, justement, dans votre travail, vous essayez de proposer d'autres représentations, d'incarner d'autres images, puisque c'est aussi ça, ce à quoi Bell Hooks nous invite, c'est de, comme elle le dit, décoloniser nos imaginaires, décoloniser nos représentations, en l'occurrence pour la question raciale, mais pour la question aussi patriarcale.
Revenir sur ce que je fais en ce moment avec ce spectacle, avec le ciné-club que j'ai créé depuis l'année dernière, où j'essaye de mettre en avant justement des films noirs indépendants qui proposent d'autres imaginaires, qui en tout cas présentent les cultures noires, les imaginaires noirs de manière nuancée, de manière créative et humaine en fait. Et c'est ce qu'on nous a retiré beaucoup en fait dans les représentations. Et c'est d'une violence. Et là, on essaye de se soigner. Et soigner les imaginaires, c'est très important.
Merci beaucoup à vous deux, Pamela Oenenyako et Marie-Julie Chalut. Toutes les références de vos ouvrages, de vos travaux, ainsi que la réécoute de cette émission et de toute notre série se trouvent sur franceculture.fr à la page de l'émission et dans l'application Radio France. Je signale un volume Black Feminism qui est apparu chez L'Harmattan et qui rassemble des textes dont nous avons parlé, Patricia Hill Collins, le Combahee River Collective, effectivement des texte de féminisme noir important et fondateur.
Je me fais du mal depuis des années, la main sur les yeux, pas envie de la retirer. Y a pas de place pour les femmes, y'a pas de place pour les regrets.
Vous pouvez retrouver un cahier central consacré à Bell Hooks dans le prochain numéro de Philosophie Magazine qui paraît le 21 août, jeudi prochain. Cette émission a été réalisée par Taïsia Froidure, prise de son Ruben Carmazine et Anthony Thomasson. Merci beaucoup à Marie-Sona Condé de prêter sa voix à Bell Hooks toute cette semaine. Demain, notre troisième épisode portera sur l'amour, évidemment. Et mes invités seront Éléonore Lépinard et Sarah Fila Bakabadio. À demain.
J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, quoi qu'il advienne.